De retour avec Wilbur Deck, le médecin à la direction de la santé publique. Bon, on sait qu'on en entend parler beaucoup dans les médias depuis des mois. On a expliqué un peu qu'est-ce que c'est ce produit, les opioïdes. Bon, et lorsqu'on fait une surdose, on parle de surdose. C'est quoi une surdose? C'est combien? Est-ce qu'on, la quantité que les gens prennent qui peuvent justement amener justement une surdose, un arrêt respiratoire?
La quantité, ben, ça dépend beaucoup du médicament dont il est question. Chaque médicament a ses doses propres. Maintenant qu'il y a parfois des produits de couple qui sont ajoutés aux produits, on sait encore moins quelle est la bonne dose qu'il faut prendre. La bonne réponse, c'est qu'il faut essayer de ne pas en prendre du tout. Là, mais si on en prend, c'est un nouveau danger là, parce que la dose devient un peu imprévisible. Et des fois, si c'est du fentanyl qui contamine, disons, je ne sais pas, l'héroïne, fentanyl, c'est 50 fois plus puissant que l'héroïne. Ça n'en prend pas beaucoup de fentanyl là-dedans pour qu'on ait 2, 3, 10 fois la dose de ce qu'on pensait se donner.
Ça vient d'où, le fentanyl?
C'est un produit de synthèse, qu'on appelle, qui est fait dans les laboratoires. Là, il n'y en a pas dans la nature. Donc, ça agit sur les mêmes récepteurs, comme on disait plus tôt, là, que la morphine. C'est pas très similaire d'un point de vue moléculaire à la morphine, mais c'est un peu le même effet. Mais ça vient toujours de labo.
Est-ce que ce serait ce produit-là, surtout, qui, en ce moment, qu'on voit, qui causerait des surdoses, qui aurait cet effet-là de autant de décès?
Oui, probablement, oui. On pense que oui. Il y a toujours eu, comme on disait par le passé, il y en a toujours des décès accidentels ou même intentionnels. Et c'est possible avec n'importe quel opiacé. Mais le fentanyl, c'est peut-être ce qui est nouveau et qui fait que ça explose. Ouais.
On se rend compte que c'est un fléau. Là, on va faire un peu le portrait de chez nous, mais c'est un phénomène qui, depuis les dernières années, là, il y a eu beaucoup de décès. Là.
Oui. Oui, ça augmente rapidement. Aux États-Unis, je pense qu'il y a 2 ans, il y avait 40 000, puis l'an dernier, il y avait 65 000 ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pas à la veille d'avoir pris fin. Au Canada, on a des chiffres qui sont similaires. Si on ajuste pour le fait qu'on est 10 fois moins de monde, on a à peu près 4-5 000 décès l'an dernier au Canada. Donc, on n'est pas du tout épargné de cette chose-là. C'est vrai qu'il y a une certaine déséquilibre entre les endroits, entre les parties du Canada. C'est un fléau qui, pour le moment, touche beaucoup. Quand on parle de fléau, je veux dire les décès reliés aux surdoses, ça touche beaucoup l'ouest du pays. Donc, la Colombie-Britannique est responsable de à peu près la moitié de tous les décès pour le Canada, même s'ils ont 5 millions de population sur 30... Qu'est-ce qu'on est maintenant? 34 millions, mm-hmm. Quelque chose comme ça. Ça fait... Ou 38 millions, je ne me souviens plus. Alors, ça touche beaucoup plus fortement. Ce n'est pas parce qu'il y a nécessairement beaucoup plus de dépendance, mais la présence du fentanyl se retrouve beaucoup à Vancouver et aussi à d'autres endroits sur la côte ouest, comme San Francisco.
Marché noir.
Oui, le marché noir.
Probablement. Oui. Au Québec, chez nous, est-ce qu'on commence à être touché par ce phénomène?
C'est quelque chose qu'on suit de près. C'est certain que le centre du pays, puis je parle de Ontario et Québec, sont beaucoup moins touchés que la Colombie-Britannique. L'an dernier, il y a eu en Ontario à peu près 800 décès. Chez nous, au Québec, semble-t-il qu'on a eu seulement à peu près 400 si nos chiffres sont bons. On n'est pas certain qu'on peut complètement se fier sur ces chiffres-là. Mais vous voyez, si on a 2 000, 2 500 décès en Colombie-Britannique avec 5 millions de personnes, puis nous avec 3 ou 4 ou 500 au Québec, on est beaucoup moins touchés.
La Gaspésie, il y a des décès reliés à ça jusqu'à maintenant?
Oui, il y a des décès reliés aux opiacés en Gaspésie. L'an dernier, depuis à peu près 11 mois, on a des bonnes statistiques depuis le mois de juin dernier seulement, à partir du bureau du coroner. Puis on sait qu'il y a eu 5 décès en Gaspésie, autour de 400 au Québec. Donc, on est à peu près le ratio habituel avec notre population gaspésienne. Donc, ça nous touche aussi. On n'a pour le moment pas connaissance de la présence de fentanyl en particulier. Et c'est peut-être ce qui épargne pour le moment le Québec des taux qu'on a observés dans l'Ouest. Le fait que dans l'Ouest, on a le fentanyl. Chez nous, on a beaucoup de gens qui sont dépendants, mais pour le moment, pas beaucoup de fentanyl, ni à Montréal, ni à Toronto, ni en Gaspésie.
mais on croit bien que ça pourrait suivre. Là.
Oui, on ne serait pas protégé. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend des choix sur le marché noir, là, les cartels de drogue, les dealers, qu'est-ce qu'ils décident d'inclure, est-ce qu'ils obtiennent du produit de la Chine, etc. Évidemment, on ne contrôle pas ça parce que c'est derrière un mur de silence.
Lorsqu'on parle de ces décès-là, il y en a 5, mais est-ce que il y a quelques années, ça pouvait se produire et on ne le savait pas? Parce que parlons entre autres des médicaments, là, parce que cette partie-là, prescription, médicaments, les gens consomment, il y en a sûrement qui consommaient ça à l'année aussi. Est-ce que c'est possible?
Oui, c'est possible. Il y a toujours eu des décès, même ce n'est pas seulement le cas des opiacés. Hein. Tous les médicaments ont un certain niveau de danger. On les utilise à bon escient là, si on a quelque chose qu'on a besoin de soulager ou de traiter. Mais il y a toujours des dangers aussi. Il y a des dangers avec les hypotenseurs. Si on en prend trop, on peut perdre connaissance puis avoir un accident. On peut chuter, etc. Il y a toujours des dangers.
Ouais. Là, parce que là, on a commencé en juin dernier à s'intéresser à ça. Est-ce que dans les dernières années, il peut y avoir des gens qui ont justement trop consommé de ce médicament-là, qui sont décédés, qu'on n'a jamais su?
Bien, on aurait su qu'ils sont décédés, mais on n'a peut-être pas associé aux médicaments.
Aux opioïdes.
On suivait de moins près. Maintenant, on porte une attention particulière, donc on examine plus les cas comme ça. Avant, il a pu se produire et on sait qu'il y a toujours eu des décès reliés aux médicaments puis aux opioïdes en particulier.
Dites-moi, est-ce que c'est inquiétant? Parce que s'il y a 5 personnes qui sont décédées de surdose, ça veut dire qu'il y en a qui consomment.
Oui.
Est-ce que, donc, c'est la pointe de l'iceberg, ça?
Oui.
Est-ce qu'il y a des dangers qu'on en ait plus?
C'est certain. Puis, dans le fond, il y a une initiative du ministère, du gouvernement, de fournir un antidote qui s'appelle le naloxone ou le Narcan, là, c'est le nom commercial. C'est sûr que ça, c'est intervenir à la toute fin du processus, essayer d'éviter un décès relié à une surdose. On veut aussi, ce qui est encore beaucoup plus à long terme, ce qui est plus important, c'est de réduire le nombre de personnes qui sont dépendantes. C'est une maladie, c'est une maladie qui se traite et c'est une maladie qui a un pronostic qui est relativement favorable. Quand on compare avec d'autres maladies chroniques, la dépendance se traite et la plupart des gens ne décèdent pas de leur maladie et en guérissent dans un certain sens, arrêtent d'utiliser puis vivent une vie normale par la suite. C'est pour ça que c'est très important d'aider les gens à ne pas accidentellement perdre la vie, mais aussi d'offrir un traitement qui puisse les aider à s'en sortir de cette dépendance.
La clientèle qu'on voit plus, mais maintenant on parle des médicaments, des prescriptions, mais on voit que chez les jeunes aussi, on se procure ça sur le marché noir. Est-ce que ça, c'est plus inquiétant ou moins contrôlant parce qu'on ne le sait pas, là?
Oui, mais c'est toujours inquiétant, les jeunes qui consomment des drogues. Il y a des drogues qui viennent à la mode puis qui passent de la mode. Il y a des modes de cocaïne, de méthamphétamine, de marijuana, bien sûr, toujours un peu présent. Et maintenant, les opioïdes, on n'a pas connaissance que c'est un fléau particulier chez les jeunes, la consommation d'opiacés. Même les cas qu'on a observés, c'est plus les personnes adultes et d'un certain âge. Mais c'est toujours possible, hein? Il y a toujours des nouvelles modes qui arrivent.
Ouais. Bon, alors vous avez parlé d'un produit qui peut aider ces personnes-là, donc le naloxone, c'est ça?
Naloxone, c'est un antidote.
Naloxone, OK.
C'est un produit qui est maintenant disponible dans plusieurs pharmacies. Il y a même une carte, je pourrais vous trouver le lien, là, une carte du ministère sur les pharmacies qui offre ce produit. C'est offert gratuitement aux personnes qui utilisent de ces médicaments et à leur entourage, donc des amis, la famille, etc., des soignants aussi. Donc, c'est quelque chose, si on a connaissance de quelqu'un, si notre adolescent consomme, même si on ne veut pas, on sait qu'il consomme des opiacés et on veut pouvoir intervenir puis peut-être sauver une vie avec ce produit. C'est un peu comme un EpiPen, c'est un injecteur et qui peut renverser l'effet d'arrêt respiratoire. Donc, ça peut sauver la vie. Les ambulanciers aussi l'utilisent. À l'urgence, ça fait longtemps que c'est disponible et qu'on peut renverser un arrêt respiratoire avec le naloxone. Mais maintenant, il y a une initiative pour que ce produit soit disponible avant même que les ambulances arrivent.
OK. Ouais. Donc, ça, c'est nouveau?
C'est, le produit n'est pas nouveau, mais l'initiative pour le rendre disponible pour la famille, l'entourage, les soignants, etc., ça, c'est un peu nouveau. C'est tout récemment, l'an dernier, que le ministère est arrivé à une entente avec les pharmacies pour qu'ils remettent ce produit aux gens qui le demandent.
Gratuitement. Donc, vraiment, on veut enrayer et... Oui. Renverser ça, là, cette tendance.
Oui, essayer de sauver des gens, souvent c'est trop tard, mais si on peut arriver à temps puis la personne ne respire pas, ça peut des fois sauver une vie.
Et puis les organismes communautaires aussi seront impliqués d'une certaine façon. Là, oui. On travaille là-dessus.
C'est vrai, tout récemment, je pense que c'était la semaine dernière, il y a une entente avec le ministère qui autorise les hôpitaux, les CIS, les Centres intégrés de santé et services sociaux, à faire des ententes avec des organismes communautaires pour leur remettre le produit pour qu'eux, à leur tour, remettent à leur clientèle. S'ils ont une clientèle qui utilise la drogue, comme les organismes qui côtoient des personnes avec des dépendances, sont invités à remettre ce produit à leurs clients.
En terminant, Will Burdick, donc on a parlé beaucoup évidemment de ce fléau. Même si on regarde un peu ce tableau-là puis que ça semble inquiétant, il y a quand même une possibilité de s'en sortir pour les gens qui sont dépendants de ces produits-là. Vraiment, là, on peut finir par s'en sortir.
C'est ça. Il y a des éléments positifs, il y a des éléments d'espoir, je dirais. La pratique médicale va dans le sens de faire un peu plus attention avec les opiacés. Et les gens qui sont dépendants, c'est pas sans espoir non plus. Même, c'est surprenant comment leur pronostic est favorable. La plupart des gens, même avec les pires formes de dépendance, les gens qui s'injectent de l'héroïne quotidiennement, la plupart ne vont pas s'injecter dans 10 ans et ils ne seront pas morts de leur maladie. Ils vont guérir, autrement dit. Donc, le pronostic est, dans un certain sens, assez favorable. C'est long, les traitements. Il y a des rechutes. Il faut souvent essayer à plusieurs reprises. Mais la plupart des gens, si on compare, disons, avec la cigarette, maintenant, la majorité des gens arrivent à arrêter de fumer aussi, mais c'est très, très difficile. On sait combien de fois qu'il faut essayer d'arrêter avant que ça marche. Même chose pour les opiacés, les dépendances. Ça ne marche pas nécessairement du premier coup, mais à long terme, le pronostic est très favorable. Ça fait se faire traiter pour ça, ce n'est pas une affaire sans espoir. Même au contraire, la plupart des gens réussissent bien,
donc,
même si c'est long. Il y a de l'aide, il y a des traitements qui marchent relativement bien. Oui, ce qui n'est pas nécessairement ce que les gens pensent. Les gens pensent que c'est des junkies là, qui sont finis. Non, ils ne sont pas finis. Oui, ils sont peut-être des junkies, là, mais tout le monde peut être un junkie puis s'en sortir. Là. C'est souvent ce qui arrive.
Donc, il y a de l'espoir et pour les personnes qui auraient des connaissances ou qui connaîtraient quelqu'un qui peut-être consomme. Donc, il y a une possibilité d'aider ces gens-là à aller vous rencontrer ou à rencontrer
tout à fait. Ils peuvent en parler avec leur médecin de famille, ils peuvent en parler avec Info Santé, ils peuvent se faire référer à ces services qui existent.
Et aller dans les organismes communautaires, là, en tout cas prochainement, sûrement qu'on va en parler, là, mais qui seront aussi là pour les accueillir et avec en plus le produit pour les aider. Là.
Les orienter, pour le naloxone, aussi.
Merci beaucoup, Will Burdick.
Merci, Richard.